Bonjour à tous, bienvenue pour la première visite radiophonique de l'année 2026. Salut Caro.
Salut.
Avec Caroline Entrecq du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Eh bien Caro, tu es seule aujourd'hui ?
Eh oui, Nelly a mal digéré sa croustade, elle ne sera pas avec nous aujourd'hui.
Mais j'imagine tu vas m'amener quelque part et qu'on va rencontrer d'autres personnes.
Mais bien sûr, en ce début d'année, on va faire comme le Père Noël, on va monter sur des toits.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entrecq.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandé-Lot-Angers-Vaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Voilà, Caro, un peu de voiture. On est monté sur les hauteurs de Mende. On est où exactement ?
Nous sommes rive droite du Lot. Entre Mende et le Chastel Nouvelle, nous sommes sur le Causse, dit le Causse d'Auge, qui est délimité par deux russes, les ruisseaux, le Rio Cross à l'est et le Rio Cross d'Abaïs à l'ouest. Donc la ville, elle est blottie au milieu de différents causses à la ville de Mende, avec le causse de Montmirat, la butte de Fontany, le causse de Changefège et le causse d'Auge où nous sommes, qui au fil du XXe siècle s'est développé et a conquéri d'anciens plateaux agricoles pour créer notamment la zone d'activité du causse d'Auge où nous sommes.
Et tu vas nous faire visiter une zone d'activité ?
Ah, ce serait une bonne idée, peut-être pour une prochaine visite. Mais aujourd'hui, on va quand même parler patrimoine et savoir-faire. Parmi tous ces toits en bac acier, aujourd'hui, on va parler de Loz. Et donc, je t'emmène au centre de formation des artisans loziers couvreurs. Ludo, du coup, je te présente Nicolas, qui est le responsable de l'association et de la formation des artisans loziers couvreurs.
Voilà, Nicolas, on se connaît quand même un peu. Bonjour, Nicolas.
Bonjour.
Mais ça nous fait plaisir d'être ici. Est-ce que pour commencer cette visite radiophonique, peut-être tu peux nous parler un peu de cette association des artisans loziers-couvreurs ?
Oui, tout à fait. Donc l'association des artisans loziers-couvreurs est une association qui a maintenant 12 ans. Elle est née en 2013 avec au départ quelques artisans de la Lozère et de l'Aveyron qui se sont réunis. Et aujourd'hui, c'est une association qui a grandi. On a des membres dans 12 départements qui sont tous loziers donc de métier. Et qui adhère à l'association pour pouvoir fédérer la filière de la couverture en loz, la structurer, la développer à l'échelle nationale. Et donc cette association a vocation à transmettre les savoir-faire, donc à former des personnes à la couverture en loz, pour que ce savoir-faire puisse se transmettre dans tous les territoires où on retrouve des couvertures en loz. On a plus de 50 départements en France qui sont concernés. Et on travaille également à la normalisation, c'est-à-dire à l'encadrement réglementaire de ce type de couverture, pour pouvoir les rendre compatibles avec les exigences d'aujourd'hui.
Vous êtes combien au sein de cette association ?
Alors, on est 2 salariés permanents, et ensuite, on a une quarantaine de membres artisans, plus également des membres associés, ce sont les amis d'ALC, donc qui peuvent être des personnes physiques comme des personnes morales.
Généralement, les formations durent combien de temps ?
Alors, les CQP, donc ce sont des certificats de qualification professionnelle, donc qui sont inscrits à France Compétences, sont des formations qui sont étalées sur 6 mois, à raison d'une semaine de formation par mois, une semaine complète. Donc ça fait au total 210 heures de formation et ensuite 3 jours complets d'évaluation.
Et puis il y a aussi tous les jeunes en formation que l'on va voir dans quelques instants.
Donc des jeunes en formation qui, j'imagine, viennent de partout, pas uniquement de Lozère.
Exactement. Donc les jeunes viennent de toutes les régions, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, puisqu'on a un public très varié. Ce sont à la fois des personnes qui sont encore en formation initiale et notamment des compagnons du devoir, mais également des personnes qui sont déjà soit chef d'entreprise, soit salarié d'entreprise et qui veulent monter en compétences ou se diversifier.
Et puis du coup, en formation, on apprend la loze de schiste, bien sûr, la loze calcaire, j'ai envie de dire même les techniques de loze calcaire, parce qu'on va parler de loze calcaire sur pente faible ou sur pente forte, et également récemment la phonolite qu'on va retrouver plutôt dans la partie massif central. Donc on va voyager à quelques mètres de là.
Salut.
Bonjour. Ah bah, c'est pas chaud, hein.
Ouais.
Allez, on vient de rentrer dans l'atelier, on voit différentes maquettes, on peut appeler ça des maquettes, Caro ?
Exactement, c'est les maquettes de travail, mais aussi les maquettes d'examen des étudiants que l'on voit. Il y en a à la fois en schiste, à la fois en calcaire, avec des pentes plus ou moins fortes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et je te propose de rencontrer Tanguy, qui est un des étudiants, justement, en formation.
Voilà, on s'approche de Tanguy sur cette maquette de schiste. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
Vous êtes ici depuis combien de temps du coup Tanguy ?
Eh bien j'ai démarré la formation en septembre avec ALC, mais sinon moi je suis couvreur depuis 8 ans maintenant.
Alors Caro, je vais te laisser lui poser des questions, tu es la professionnelle de l'architecture.
Oui bien sûr, ben, par exemple Tanguy là, est en train de monter ce qu'on appelle une petite croupe sur cette maquette en schiste. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'il nous explique un peu les différentes loses et les différentes parties du toit, les parties un peu plus techniques en fait qu'on apprend sur un toit en lose.
Eh bien, pas de souci. Alors là, sur ce versant, là, justement, comme tu l'as dit, qu'on appelle une croupe, toute la technicité, ça va être déjà au départ de bien choisir ses gouttiers et faire une répartition correcte. Ensuite, sur les gouttiers, bah, on va commencer à poser les premiers rangs, donc les couvre-joints et les ardoises entre les couvre-joints. Et ensuite, il va falloir faire attention sur tout ce qui est arrêtier. Donc les loses d'arrêtier, choisir et garder celles qui sont les plus grandes de façon à pouvoir les fixer et en même temps qu'elles dépassent. Et ensuite tout le centre, c'est du remplissage, quoi.
Mais ce qu'on appelle arrêtier, c'est celles qui sont sur le côté, hein, qui arrêtent le bord du toit.
C'est ça, c'est l'arrêt du toit.
Est-ce qu'il y a des difficultés sur le schiste particulier qu'on ne trouve pas sur d'autres matières ou pas forcément ?
Eh bien, la grosse différence avec l'ardoise, car en soi, la méthode de pose est relativement similaire, mais la difficulté, ça va être tout ce qui est taille, calibrage, car on est sur une épaisseur différente, on n'est pas sur quelque chose qui est gabarisé, normé, donc il va falloir s'adapter beaucoup plus au matériau.
C'est toujours rectangulaire ou pas forcément ?
Non, pas forcément. Là, c'est un choix visuel. En fait, on a choisi de les retailler de cette façon, de façon rectangulaire, mais il y a en ogive, en arrondi ou simplement rectangulaire avec des bords légèrement arrondis.
Ce qu'on peut signaler, c'est qu'en fait, toutes ces petites méthodes de taille, ou même on va parler du faîtage tout à l'heure, en fait, c'est chaque micro-région, chaque micro-paysage a un peu ses façons de faire. Ces types de loses un peu plus carrées, on va les retrouver plus facilement sur les parties cévenoles, par exemple, que ici dans la vallée du Lot. Et puis, si on parle des faîtages, on peut avoir différentes typologies de faîtages. Est-ce que tu sens nous en parler ?
Ben, les faîtages, on n'a pas encore abordé le sujet en formation, mais du peu que je sais, on peut faire un faîtage croisé. Donc on a les loses qui vont être encochées de façon à s'emboîter et tenir un peu par elles-mêmes sur le versant en pendant des deux côtés.
C'est ce qu'on appelle les crêtes de coq ou encore les dos de dragon pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà.
Alors ça c'est autre chose. Ouais. Là on est plus sur le faîtage croisé, ça va vraiment être la lose qui dépasse alors que la crête de coq ça va être un bord fait avec la maçonnerie. Sinon on peut avoir simplement des faîtages plats avec couvre-joint où là on va être sur des pentes beaucoup plus plates et on va beaucoup jouer avec la maçonnerie aussi.
On voit que les tailles sont différentes, peut-être même les épaisseurs aussi. Comment on choisit quelle lose vient à quel endroit ? C'est au fur et à mesure que ça se décide ?
Alors d'abord, ce qu'on fait, en fait, ça commence par l'étape du calibrage. Donc une fois qu'on a récupéré toutes nos loses, qu'on les a taillées et qu'elles sont prêtes à être calibrées, on vient justement les calibrer par taille de 2 cm, soit en calibrant au niveau du clou, soit en calibrant directement au niveau de la taille complète de la lose. Et ensuite, on vient placer en fait, les plus grandes en partie basse et décrescendo, on vient réduire les tailles en montant au fur et à mesure.
C'est ce qu'on appelle souvent, on le lit dans les avis d'architectes des bâtiments de France, le bureau dégressif. Et quand on parlait de faîtage, on parlait tout à l'heure de la phonolite, là on ne le verra pas cette année parce qu'il n'y a pas de jeunes qui se forment à la phonolite. On peut aussi avoir des faîtages qu'on appelle en rastel ou en bastel, qui sont avec une pierre cylindrique creusée à l'intérieur et qui fait le faîtage, le haut du toit.
C'est ça, ça fait un peu comme un gros rondin de pierre qui va être légèrement maçonné et qui tient beaucoup par son poids.
Donc là on les pose juste les unes sur les autres, il n'y a pas de colle, d'enduit entre elles.
Ah non, il n'y a pas, là sur cette pose, il n'y a pas du tout de collage ou d'enduit, on est vraiment sur simplement la fixation au clou.
Oui, il pouvait arriver que dans certaines régions où on a de la burle ou du vent ou encore des épisodes cévenols, on pouvait mettre parfois dessous un petit peu d'argile pour faire une étanchéité un petit peu à l'eau quand l'eau va remonter le long des Lozes. On avait à certains endroits cette tradition sur l'Aubrac et certaines parties cévenoles et puis après dans le Massif central, ça se trouvait également.
Pour l'instant, tu as travaillé que sur le schiste ou t'es passé également sur l'ardoise, sur d'autres matières ?
Dans la formation, moi, j'ai travaillé uniquement le schiste. Après, durant ma carrière, j'ai aussi travaillé l'ardoise classique, Espagne, Angers. Voilà, on est sur un format très différent.
Du coup, je te demande pas la matière que tu préfères travailler.
Oh non, ça c'est... Il y a trop de matières pour pouvoir en choisir une.
Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on passe à nos amis en formation calcaire.
Allez, allons-y.
Donc là, on se positionne devant les maquettes de calcaire. Alors les maquettes calcaires, il y a une spécificité par rapport à la losse, c'est qu'il y a plusieurs manières de la poser. C'est-à-dire qu'on va avoir des toitures en calcaire, ce qu'on appelle sur une, qui font une voûte en tas de charges. C'est-à-dire qu'en fait, on vient poser les losses les unes sur les autres et ça fait par lui-même une voûte. Donc le mur et le toit ne font finalement qu'un. Et ça, on le trouve plutôt pour des petits volumes, ce qu'on appelle chez nous les caselles, mais ce qu'on peut appeler dans d'autres territoires des capitouls, des caselles. Voilà. Et l'autre technique, c'est aussi sur une voûte. Plein scène, c'est tout ce qu'on retrouve sur la partie Loz, sur le territoire Cossenard, où on va avoir une pente un peu plus faible. Et là, on vient poser les cailloux, les pierres, les unes sur les autres. Et on a encore une autre technique qu'on voit devant nous, c'est sur une charpente, avec des tasseaux. C'est la technique qu'on voit juste là. Et donc, je te propose de faire parler à la fois les formateurs et les formés.
Allez, on s'approche des pierres calcaires, c'est ça, Caro, avec Kevin qui est apprenti ici. Bonjour.
Bonjour.
Alors Caro, explique-moi le poste sur lequel on vient d'arriver.
Mais du coup, Kevin, il vient de prendre une lose calcaire et il va la regarder avant de la poser sur un toit. Donc il va avoir une période de taille, mais il va tout à fait nous expliquer ce qu'il fait.
Bon alors déjà, pour commencer, on sonde de la lose pour voir le son qu'elle produit, quoi. En fonction si elle est bonne ou pas pour être utilisée. Donc là, elle sonne plutôt pas mal. À partir de là, déjà, avant que je la pose sur mon établi, j'ai regardé un peu les proportions de ma losse, si elle peut être posée à l'endroit prévu. À partir de là, je peux commencer à tailler mes chefs latéraux, c'est les côtés de losse. Le chef de base, c'est le côté qui est vu, qui vient en aval du toit, quoi. Voilà. D'abord, je vais procéder au traçage de la losse. Donc là, il y a un côté qui est déjà plat, qu'on peut éviter de tailler, quoi. Donc il me faut une losse de 35, donc... de 35 de large. Donc je trace mes 35. Donc là ici on a les deux chefs latéraux. Et là j'ai mon chef de base. Voilà. Là en gros on visualise la lose avant de la tailler, quoi. Elle est trop fort et que de faire une perte, quoi. Moi, c'est comment je procède. En fait,
merci beaucoup, Kevin. À côté, il y a Élise qui travaille aussi la pierre. Bonjour, Élise.
Bonjour.
Caro, un nouvel exercice là à côté où on est toujours sur la taille. Qu'est-ce qui se passe?
Ah de toute façon, avant de poser une lose, il faut toujours la tailler. Donc, il y a toujours de la taille quand on fait un toit, à n'importe quelle époque. Voilà. Et du coup, Élise, elle peut nous parler un petit peu de la question de l'anneau qui est très spécifique à la toiture en lose, et notamment à la lose calcaire, quand on a une architecture avec ce qu'on appelle des lucarnes pignons. Donc, c'est ces fameux petits triangles que l'on voit sur les toitures des cosses, des grandes maisons et des bergeries. Et du coup, Élise peut nous expliquer comment on fait cette noue, ce que c'est exactement une noue.
Alors la noue, c'est la jonction entre deux pans, donc c'est-à-dire que nous allons avoir deux pans de toit différents, donc avec deux pentes différentes, et on va travailler donc en arrondi pour que visuellement aussi ça soit joli et que l'eau puisse suivre son chemin. On va travailler à l'inverse du toit rampant avec des bas de loz plus étroits que les têtes de loz qui vont être donc au niveau de la voûte au plus proche. Et on va remonter en arrondi jusqu'au haut de la lucarne ou de la cape.
Ce qu'il faut imaginer pour nos auditeurs, c'est qu'en fait, on vient créer des cercles avec les lozes à différentes hauteurs. Et donc, il faut tailler chacune des lozes pour qu'elle ait une forme un petit peu triangulaire, comme le disait Élise, pour venir vraiment chasser l'eau. Donc, c'est quelque chose qui est assez beau à voir sur les toitures et qu'on a du mal à voir quand on est en bas.
Mais ça ne se voit pas du tout du sol, généralement. Le gouttier va bloquer la vue de la noue.
Du coup, c'est toi qui as choisi de travailler sur une matière calcaire ?
Alors, je suis arrivée dans la couverture un peu par hasard et j'ai commencé que sur du technique très compliqué. Donc, des cas d'école où j'ai une noue à une sortie d'abside. Donc, c'est vrai que ça va faire un an et demi que je fais ça et ça fait quasiment un an et demi que je fais de la loze et que des noues. Voilà.
Élise, c'est notre spécialiste de la technicité cette année. Elle a travaillé sur un énorme château de mémoire du 15e.
Alors, c'est une maison seigneuriale, l'ancienne maison de chasse du seigneur de Sévrac-le-Château, qui a été un des grands défis de la société pour pouvoir arriver justement avec ses losses calcaires à réétanchéifier le toit. Et puis, on a eu quelques débords techniques assez sympathiques à voir. Ouais.
Et puis il y a une autre technique en loz calcaire qui vient plutôt elle de Bourgogne, on peut la trouver aussi un petit peu dans le Lot. On vient poser des loz calcaires sur de la charpente. Alors ça paraît un peu antinomique puisque la loz calcaire ça pèse très lourd. Si je ne me trompe pas, mais Johan peut me corriger, on est sur 300 kg au mètre carré. Plus
Ben, ça va dépendre de l'épaisseur et c'est vrai qu'il y a des grandes variations en fonction des territoires, en fonction des carrières, en fonction des toitures et c'est vrai que ça peut varier, aller de 2 à presque plus de 8 jusqu'à 10 cm d'épaisseur et on compte à peu près 100 kg par cm d'épaisseur de la loze sur certains types de toitures et ça peut aller au-delà, donc je vous laisse faire le calcul.
Voilà, Johan qui est formateur ici.
Exactement, et on a des formateurs qui viennent de partout en France hein. Il y en a qui viennent du Lot, Johan, tu viens de l'Aveyron.
Du Sud-Aveyron, du plateau du Larzac.
Il y a des gens qui viennent également de Haute-Loire, et pas mal aussi de locaux qui sont là 3 jours par semaine.
Ça varie en fonction des semaines de formation où on vient chacun transmettre un petit peu nos pratiques régionales en fonction des ouvrages qu'on veut transmettre.
Peut-être, Johan, tu peux nous expliquer, on va aller de l'autre côté, comment on fait une toiture en loz calcaire sur un toit à faible pente, sur voûte.
Bah, la grande particularité de ces toitures, c'est que, comme tu l'as dit, on est sur une voûte, donc il n'y a pas de charpente, on n'a pas de support bois, on n'a pas quelque chose de linéaire sur lequel on va se poser. Une voûte, c'est courbé, on a de la forme arrondie, et le toit, on va essayer de le rendre linéaire au final. Bon, voilà, ça c'est la grande particularité de ces couvertures qu'on retrouve dans pas mal de régions en France, mais c'est quand même très spécifique en termes de mise en œuvre en tout cas. Et ça va se rapprocher un petit peu des murs en pierre sèche dans les logiques de blocage, puisque comme on n'a pas de charpente et que ça n'est pas scellé, on va les faire tenir uniquement par calage. C'est-à-dire que chaque lose va avoir des petites cales, des petites pierres plates, des éclats de taille qu'on va poser sous les parties qui font qu'elles ne sont pas stables. Voilà. C'est ce qui fait qu'elles se tiennent entre elles et c'est aussi en les serrant entre elles au niveau latéral. Et puis ben, comme c'est très lourd, quand on pose une lose sur une autre dans le sens de la hauteur, ben, c'est pareil, ça la bloque. Donc ce sont des toitures qui sont auto-bloquées, on va dire. Quoi.
Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le recouvrement. Donc c'est ce qu'on va retrouver sur toutes les toitures en lose qui est important. C'est-à-dire la lose dessus, elle recouvre la lose du dessous pour éviter que l'eau s'infiltre, que l'eau remonte. Et donc on est sur des... un tiers, voire un cinquième, selon les toitures.
C'est vrai que là, pour ce qui est de la région des Grands Causses, où on va parler de toitures à faible pente, c'est-à-dire en deçà de 80% de pente, mais au moins au-delà de 45%, on va avoir des proportions de l'ordre du tierce, c'est-à-dire que la partie apparente de la loze, une fois qu'elle est posée, représente seulement à peu près un tiers. Donc pour qu'une toiture soit étanche, il faut quand on pose un rang de lauzes, eh ben, c'est seulement le deuxième rang au-dessus, non pas le suivant, mais celui encore d'après, qui va permettre de créer un recouvrement. Et donc, c'est la partie du recouvrement qui fait l'étanchéité. Sans ça, ça fuit.
Voilà, la losse calcaire a eu à une époque mauvaise presse sur cette question de fuite, de gélivité. C'est pas du tout le cas. C'est l'intérêt justement de ce CQP et de le travail aussi sur la question des matériaux, des tests de gélivité, etc.
Pourquoi elle avait eu mauvaise presse du coup ?
C'est vrai qu'il y a eu une période très très sombre qui a failli éteindre complètement la pratique de la pose de losse calcaire du fait d'un mauvais matériau qui est venu principalement d'une carrière. On a eu des gros soucis de sinistres liés au gel. Et c'est vrai que cette grave erreur a failli anéantir la filière, mais elle a permis aussi de vraiment rebondir sur des questionnements et de mettre en face des moyens pour écarter tant que possible les problématiques liées à la structure de la pierre, à sa nature, et on avance.
Oui, pour rebondir sur ce que disait Yuan, il y a eu pas mal d'études et de financements qui venaient d'abord de l'OBA MAC, puis l'OBA PRO, puis l'OBA ECO. Tous ces financements, en fait, ont permis à la filière de se structurer, mais également de faire ces fameux tests de matériaux aussi, de se mettre d'accord sur les règles professionnelles pour avoir des vrais professionnels qui posent des toits et qui savent ce qu'ils font.
J'imagine que c'est beaucoup de restauration, où il y a des constructions, où on met en place ce type de toiture.
Il y a un exemple de construction qui est une architecture contemporaine qui a eu beaucoup de prix, qui s'appelle Super Cairou, qui est le petit bâtiment que tu vois juste là, qui est une aire de bivouac sur le chemin de Compostelle, le GER 65, qui a été portée par une association qui s'appelle Fenêtre sur le paysage, avec un architecte, encore heureux architecte, et un artisan, il me semble que c'est Vincent Cossanel.
Oui, c'est vrai que c'est très très surprenant, parce qu'il y a non seulement un travail de réalisation de toiture avec des formes peu communes, que je trouve très esthétiques, et il y a aussi tout un bâti en pierre sèche avec des formes relativement modernes. C'est à voir. Vraiment, je trouve ça très chouette. Et ça reste une exception, puisque je pourrais pas prétendre qu'il n'en existe pas d'autres. Il peut y avoir des commandes exceptionnelles, mais c'est vrai que ça reste un matériau qu'on pratique quasiment exclusivement en rénovation de patrimoine.
Merci beaucoup, Johan.
Avec plaisir, c'est toujours chouette de pouvoir parler de ce qu'on fait, parce qu'on aime ce qu'on fait. Voilà.
Allez, pour terminer cette émission, j'imagine qu'il y a des actualités peut-être avec Nicolas concernant l'association. Est-ce qu'il y a une actualité prochainement ?
Alors oui, on a de l'actualité. En 2026, on va mettre en place des petits modules de formation, soit directement chez nous au centre de formation. Donc on va communiquer sur ces petits modules d'une journée ou d'une demi-journée, ainsi qu'une initiation de 3 jours en partenariat avec le CFA de la Lozère pour pouvoir initier des personnes intéressées à la couverture en loze.
J'ai pas une actu, mais c'est toujours bon à savoir. Si vous voulez refaire vos toits en loze, il y a des aides possibles, notamment l'aide de la Fondation du patrimoine, qui est soit une aide directe, soit une aide fiscale. Vous pouvez les contacter sur leur site internet. Et également, quand on est en abord de monuments historiques, on peut avoir une aide de la DRAC sur les abords de monuments historiques. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et également, quand on est en cœur de parc national des Cévennes, on a également une aide spécifique pour les toitures en loze.
Et une anecdote ?
Alors j'en ai même deux, comme Nelly n'est pas là. Sais-tu, Ludo, comment on appelle un losier en Bourgogne ?
Je n'en ai aucune idée, mais tu vas me le dire.
Voilà, en fait on appelle ça un lavier, rien à voir avec la pierre de lave, puisqu'il pose quand même du calcaire. Mais c'est le nom historique des losiers sur le territoire de la Bourgogne, quand même une association qui s'appelle les losiers en Bourgogne. Et puis notre anecdote, sais-tu comment s'appelle l'instrument fait à base de pierre ?
Quel instrument ?
Un véritable instrument de musique qui s'appelle un lithophone. Le lithophone, on présume que c'est un instrument qui date de la préhistoire, qui a été daté à moins 22 000 années avant notre ère. Donc c'est formé d'un ensemble de petites pierres qui sonnent de différentes manières. Elles sont posées soit au sol, soit suspendues. Et on appelle ça de la paléomusique.
Voilà, qu'on peut entendre en fond.
Voilà, exactement. Merci, Nico.
Et du coup, Caro, on va aller où le mois prochain ?
Donc, on va aller sur un des territoires du Pays d'Arrêt d'Histoire qui s'appelle maintenant, et c'est l'actualité, Mende, Gévaudan et Mont-Lozère.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.